Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu de la tech, tout ce que vous avez besoin de savoir, et là en à peu près une heure. C'est simple, c'est facile et c'est, j'espère, un bon moment passé en notre compagnie. C'est ce à quoi on travaille en tout cas, on travaille à ça et on travaille à essayer de résumer de manière compréhensible les sujets, même les plus complexes, y compris cette fameuse directive sur le droit d'auteur qui vient d'être votée par le Parlement européen, qui est pour le coup assez complexe. Et je crois qu'on va passer un petit moment dessus pour essayer de clarifier les choses, les inquiétudes et peut-être les fausses idées aussi qu'on se fait sur ce texte qui vient d'être voté. On va en parler dans un instant. On va aussi parler d'autres choses, hein, d'Apple, de Huawei, de Google, de plein de choses super intéressantes. Mais dans un premier temps, je vais quand même présenter les co-animateurs qui sont là avec moi. D'abord, moi, je m'appelle Patrick Béja. Je suis très heureux de vous recevoir une nouvelle fois pour cet épisode. Et j'ai la joie de recevoir enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, Jérôme Kainborg.
Non, plus d'un mois.
Ouais, plus d'un mois. Oui. T'étais pas là il y a deux épisodes.
J'ai raté plein de... Enfin, je suis arrivé à esquiver pas mal de rendez-vous tech, mais là, aujourd'hui, tu m'as pris au dépourvu, j'avais pas d'excuses.
Écoute, puisque je vais avouer que j'étais un petit peu dépité que tu ne veuilles pas venir dans l'émission, mais tu nous as bien compensé ton absence avec des séries de photos d'une beauté qui m'ont régalé pendant ces deux mois. C'était sublime. Entre tes photos et celles de Marion, je lui dirai d'ailleurs quand elle sera là la prochaine fois aussi, c'était vraiment sublime. Donc,
c'est la première fois depuis bien bien longtemps que je prenais des vacances aussi longues et on s'est bien éclaté en photo. Enfin, on a vu plein de belles choses et on a essayé d'en partager quelques-unes.
Et c'était, du coup, je me demande même si c'était vraiment des vraies vacances à 100% parce que j'ai l'impression que vous étiez tout le temps sur Instagram et sur les réseaux sociaux pour partager vos expériences.
Non, justement,
et...
je fais juste une parenthèse parce que ça intéressera peut-être. On a été assez disciplinés. Mon voyage précédent en Grèce, j'avais fait trop de stories. Et en fait, on ne publiait que le soir. C'est-à-dire que même les stories que vous voyez, même je publiais parfois 2-3 jours après les avoir enregistrées. Justement, comme on profitait soit du soir, soit des moments de transit entre un point et un autre. Et on n'a rien posté sur l'instant, tu vois, pour pas se gâcher les instants. Ouais. On prenait des photos, on enregistrait des petites vidéos Insta, et en fait, on les publiait après.
C'est peut-être un bon compromis, effectivement. On a aussi le grand plaisir de recevoir à nouveau dans l'émission Julien Lausson, qui est un petit peu le spécialiste affaires légales de Numérama. Bonjour Julien, merci de revenir dans l'émission.
Merci à vous de me réinviter, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Tu étais déjà venu en fait, l'histoire se répète un peu, pour l'épisode 251 précisément, j'ai vérifié, c'était il y a presque un an, en juin 2018, où on avait déjà parlé de la directive sur le droit d'auteur au moment où elle était en discussion. Et j'avoue qu'on avait été, pas forcément alarmiste, mais en tout cas très inquiet sur cette directive à ce moment-là. On va voir si notre inquiétude était justifiée maintenant qu'elle est votée. On va en discuter un petit peu tous les deux, mais merci donc d'être avec nous. Donc je vous propose, je vais proposer à Julien en fait, puisqu'il va être le plus accablé dans ce premier sujet, de se lancer immédiatement sur les articles 11 et 13. Avant ça, quand même, je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, et notamment Florian Brochard, Grégory Devise, Ben Folstown, donc je me demande s'il ne s'appelle pas en fait un truc genre Benjamin Fauville ou quelque chose comme ça, et son pseudo c'est donc Ben Folstown. Il est dans le Slack des Patriotes de l'émission, donc il faudra que je lui pose la question. On a aussi Guillaume Haché, pour lequel je ne ferai pas la plaisanterie que je fais à chaque fois, qui commence à être un petit peu passé.
Sacha, il aime bien la tech Haché.
Oh, Jérôme est vraiment de retour. Il y a aussi Sacha Geb, Kappa Ribou et Coach Your Brain. Merci à vous tous. Vous le savez, hein, l'émission, si elle vous intéresse, si elle vous plaît, vous pouvez la soutenir sur patreon.com/rdvtech. Et c'est les auditeurs qui soutiennent l'émission. Ça pourrait être vous. Si ça fait un moment que vous écoutez l'émission et que vous l'appréciez, bah, c'est peut-être une occasion de se dire, bon, vous savez quoi, cet épisode, il était cool. Allez hop, je deviens patriote. Pour $1 par épisode, c'est franchement pas grand-chose et ça aide énormément. Et donc, alors, on va prendre notre respiration tous ensemble. 1, 2, 3. Ok. La directive sur le droit d'auteur de l'Union européenne. Alors, avant tout, un petit peu d'administratif. C'est une directive, ce qui veut dire qu'elle n'a pas force de loi avant d'être implémentée dans les pays membres de l'Union européenne, ce qui peut prendre plus ou moins longtemps en fonction de l'administration locale. La France, elle, veut l'implémenter assez vite. On parlait de cet été, peut-être même un tout petit peu plus tôt. Et donc, ça va arriver chez nous assez vite, mais ça va être implémenté dans chaque pays. À différents moments. Il y a beaucoup de choses dans cette directive, mais il y a deux articles qui font principalement polémique. Ce sont l'article 11 et l'article 13. Ces articles ne sont plus les articles 11 et article 13 dans la version finale du document, mais les articles 15 et 17. Donc déjà, on commence, déjà on ne comprend plus rien. Donc,
comment virer des hashtags négatifs ?
C'est ça,
exactement.
Donc, article 11 est maintenant article 15 et article 13 est maintenant article 17. L'article 11, c'est le fameux article qui précise ce qui a été appelé la link tax, la taxe sur les liens hypertextes. D'une certaine manière, on peut l'expliquer comme un super droit d'auteur qui s'applique à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de mots qu'il ne s'appliquait avant. L'article 13, maintenant 17, est le contenu, le filtre de contenu, qui est un petit peu, si vous connaissez le Content ID de YouTube, qui filtre les vidéos ou qui identifie les vidéos qui contreviennent aux droits d'auteur, et ben c'est un petit peu ça, en amont de la publication et pour le web entier. Que veut implémenter l'article. Donc, c'est des réformes très ambitieuses, en particulier l'article 13/17. On peut décider maintenant comment on les appelle. Est-ce qu'on les appelle 11 et 13 ou 15 et 17 ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Alors, moi, je serais presque d'avis de garder 11 et 13, puisque les nouveaux numéros sont assez récents. Et en plus, je pense que ça va encore changer lorsqu'il y aura la transposition de la directive en droit français. Donc, on aura encore une nouvelle numérotation dans quelques mois.
D'accord. Bon, bah, on va dire article 11 et article 13. Alors, c'est Julien qui a décidé. Donc, l'article 11, le super droit d'auteur, dit qu'il faut que n'importe quelle utilisation d'un texte qui soit même très court soit soumis au droit d'auteur. L'idée est évidemment de cibler des services comme Google News, Google Actualité, Et Google en général, mais Google News plus spécifiquement, et elle est a priori motivée par le lobby de la presse qui estime que l'utilisation que fait Google des extraits d'articles est dommageable pour leur business. On sait qu'ils se battent contre cette pratique depuis un bon moment. Il y a eu une sorte d'aller-retour entre Google et les éditeurs de presse qui voulaient interdire l'utilisation dans le cas où il n'y avait pas de paiement, mais qui ne pouvaient pas forcer le paiement. Et Google disait, bon, bah, écoutez, si c'est comme ça, on a vu ça en Espagne notamment, si vous voulez nous faire payer n'importe quelle petite utilisation, à ce moment, on va simplement pas utiliser vos articles du tout et il n'y aura plus Google News et du coup, vous allez perdre les bénéfices que vous ne voyez pas, qui sont le trafic qu'on vous envoie. Parce que on est dans une mécanique un petit peu comparable à ce qu'on pouvait voir du... Bon, je vais pas partir dans les histoires de piratage, c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, le bénéfice que met en avant Google, c'est le trafic qu'ils envoient, et le problème que mettent en avant les éditeurs de presse, c'est la perte de revenus, parce que soyons honnêtes, quand on fait une recherche Google ou qu'on voit Google Actualité, il n'est pas rare qu'on voit les titres des articles, un petit extrait de 3 lignes qui nous dit un petit peu le début de l'histoire, et puis on ne va pas forcément cliquer sur l'article lui-même pour aller plus loin. Je vous pose la question, est-ce que vous plaidez coupable dans cette situation, si on est honnête deux secondes ou pas ?
Alors, pour moi, on va dire que c'est un petit peu du 50-50. Comme je suis journaliste, il m'arrive d'aller un peu plus loin et donc forcément de cliquer sur les liens pour savoir ce qui se passe, mais on va dire que dans la vie de tous les jours, le simple résumé me suffit.
Ouais, donc si, effectivement, je crois que c'est un truc qu'il faut admettre aussi. Les éditeurs de presse n'ont pas 100% tort. Ensuite, la question, c'est est-ce que le trafic qui est envoyé compense ? A priori, c'est possible, voire probable, parce que ça représente une grosse partie du trafic qu'ils reçoivent. Ceci dit, donc, la loi, et je m'excuse par avance auprès des auditeurs, je vais quand même faire beaucoup de résumés et ça va me prendre un petit peu de temps parce que c'est des sujets complexes. Et vous savez, je suis jamais aussi bien servi que par moi-même, moi en particulier. J'aime bien faire les choses comme ça pour être sûr que c'est présenté de la manière qui me convient. Donc, je vais beaucoup parler, je suis désolé. Mais cet article avait amené une crainte et c'était l'idée que n'importe qui serait susceptible au droit d'auteur et donc taxable en utilisant même des quantités d'informations très réduites comme une URL, comme un lien même, étant donné qu'il y avait souvent dans l'URL le titre d'un article, ça pouvait être lu comme disant, si on peut lire le titre de l'article dans le lien que vous mettez, c'est soumis au droit d'auteur. Donc ça menaçait vraiment le modèle du web, et dans l'idée, en théorie, ça pourrait menacer le modèle du web, puisque l'idée du web est de mettre des liens sans avoir à demander l'autorisation à l'entité qui édite la page. On met un lien vers la page et c'est pas, le lien lui-même n'est pas soumis au droit d'auteur. Ce qui était menacé selon l'interprétation de certains. Alors, dans l'article 11 tel qu'il a été publié, je crois qu'on a aujourd'hui des protections qui sont non négligeables par rapport à toutes ces préoccupations qu'on avait légitimement il y a quelques mois de ça. Et on se lamentait à la fin de l'épisode précédent avec Cédric, qu'on se sentait un petit peu impuissant face aux machinations de l'administration et des grands lobbies. Et on se disait, on pourrait parler de ces articles, mais on n'a pas vraiment de pouvoir. Et bien là, en allant regarder les détails de ces articles et de cette loi, moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une inflexion sensible en raison de toutes les plaintes qu'ont reçues les parlementaires sans doute, et puis de tous les scandales qui ont été faits autour de cette loi. Donc en l'occurrence, quelles sont les protections ? Il est spécifié dans le texte de la loi que cette taxe sur les liens ne s'applique pas à des entités privées ou non commerciales qui utilisent des publications de presse, des entités privées ou non commerciales dans le cas d'utilisateurs individuels qui utilisent ces publications de presse. Donc ça ne s'applique pas aux utilisateurs individuels. Il précise aussi que ça ne s'applique pas aux hyperliens, donc aux liens tout simplement. Donc ils ont très spécifiquement mentionné les liens hypertexte pour les exclure. Donc ça, c'est important. Et il précise également que ça ne s'applique pas à l'utilisation de mots individuels. Donc bon, évidemment, quand c'est un mot, c'est pas le cas. Ou à des extraits très courts de publications de presse. Et c'est là qu'on a un petit problème quand même. Parce que quand on dit extrait très court, c'est assez vague. Et en fonction de la manière dont ça va être implémenté, a priori, ça devra respecter ce texte précis. Mais qu'est-ce qu'un extrait très court ? Est-ce que une ligne, c'est un extrait très court ? Est-ce que deux lignes ? Est-ce que trois mots ? Et là, d'après ce que je comprends, tu vas me dire, Julien, si c'est le cas, ça va être laissé à l'interprétation des organes judiciaires, donc des juges, tout simplement, qui pourraient même remonter jusqu'à la Cour suprême européenne. Ça pourra prendre des années pour déterminer, pour établir qu'est-ce que c'est si un extrait est trop court ou pas, et puis établir les bonnes pratiques en quelque sorte. C'est des choses qu'on avait vues déjà à la fin des années 90, début des années 2000, à l'époque de la loi sur le e-commerce, qui avait établi, par exemple, le Safe Harbor et tout un tas de lois qui ont régi le fonctionnement d'Internet pendant une vingtaine d'années. Ça, c'était le même processus et il avait dû y avoir aussi des décisions de justice qui précisaient les choses. Mais donc là, en gros, moi, d'après ce que je comprends, on a très certainement une loi supplémentaire qui va obliger les grands d'Internet à... on a, je ne l'ai pas précisé, mais on a bien sûr, on l'avait mentionné, des restrictions qui s'appliquent à la taille de la société, à la quantité d'activité qu'elle fait, etc., pour essayer de cibler les géants du net. Mais là, j'ai l'impression qu'on a quand même, sur cet article spécifiquement... des protections qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on craignait il y a quelques mois. Est-ce que c'est le cas, Julien, ou pas ?
Alors, effectivement, comme tu l'as rappelé, ils ont essayé de réduire un peu le spectre pour éviter de toucher évidemment tout le web et que ça désorganise l'idée de pouvoir faire des liens, puisque c'est quand même l'essence du web, de pouvoir connecter des pages entre elles. Sauf que, comme tu l'as bien dit, c'est que le diable se cache dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire un court extrait ? Est-ce que c'est une ligne ? Est-ce que c'est deux lignes ? Est-ce que c'est en nombre de mots ? Alors, peut-être que la transposition dans la loi française va préciser en donnant peut-être des valeurs chiffrées. Mais sinon, effectivement, ça devra certainement être jugé par des tribunaux, sachant que peut-être qu'entre les tribunaux, il y aura des différences d'interprétation et il faudra remonter toute la pyramide judiciaire jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire un court extrait.
Oui, j'ai dit la Cour suprême, bien sûr, c'est la Cour de justice. Mais j'ai l'impression que quand on lit ça, on peut facilement se dire « Ah, mais voilà, c'est le bordel, ils ont mis tout ça sans réfléchir. » Mais je crois que c'est la manière dont se font les lois, et en particulier avec l'organisation européenne qui est évidemment un petit peu complexe, on a une sorte d'intention qui n'est pas hyper précise, peut-être qu'il faudrait qu'elle le soit, mais c'est parfois aussi important d'avoir une intention qui reflète le but final et de dire on veut pas qu'on les très courts extraits sont acceptables et pas dire bon ben il faut 4 mots ou 10 mots ou 2 lignes. Qu'est-ce que ça veut dire une ligne? 10 mots c'est peut-être trop dans certains cas, pas assez dans d'autres, etc., etc. Moi je me demande si c'est pas le processus normal de la loi, et là ça nous hérisse parce qu'on connaît le sujet, mais c'est comme ça que ça fonctionne et ça a bien fonctionné pendant des décennies, donc c'est pas si catastrophique qu'on pourrait le craindre.
Je dirais qu'en fait, effectivement, on a le sentiment d'une intention, parce que si on replace cette directive dans un contexte plus large, j'ai le sentiment que c'est vraiment l'Europe, l'Union européenne contre les États-Unis. On l'a vu avec le RGPD qui a été appliqué à partir de l'année dernière. C'est vraiment deux visions et une tentative de rééquilibrage entre des plateformes qui, en 15 ou 20 ans, sont devenues vraiment des Golgothes, et des écosystèmes qui sont bousculés, typiquement la presse qui cherche à adapter son modèle économique à une nouvelle économie qui lui échappe, finalement. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment cette impression qu'on essaye de corriger une balance déséquilibrée, mais de façon discutable.
Justement, continuons, parce que toujours dans cette intention, il y a évidemment l'article 13. Je vais juste mentionner le fait que, comme tu le dis, on a cette division entre l'Europe et les États-Unis, et l'une des craintes de ces décisions, c'est de créer un Internet fragmenté entre l'Europe et les États-Unis, où les réglementations sont différentes, et avec la Chine en plus, où évidemment les réglementations sont différentes aussi, on a la crainte de voir apparaître un Internet fragmenté en trois, en gros, on va dire en trois sections, États-Unis, Europe et Chine. Je laisserai à chacun l'appréciation de cette prophétie. Moi, personnellement, je pense qu'elle risque de se réaliser, mais pas de manière aussi dramatique que certains pensent. Continuons avec l'article 13, justement, pour peut-être... Vas-y,
Jérôme. Avant l'article 13, j'ai juste une petite question. C'est pour ma paroisse, hein, mais des choses comme Flipboard, justement... Dans quelle mesure ça met en péril? Parce que tu vois, là, du coup, je regarde avec un peu d'attention. Et Flipboard, c'est marrant. Il y a des articles où il y a vraiment que la première phrase qui apparaît et tu es obligé de cliquer et ça te mène vers le site qui a publié l'article. Mais tu en as d'autres où tu as quasiment les deux, trois premiers paragraphes qui apparaissent et que tu peux lire dans Flipboard même. Est-ce que Flipboard serait obligé de payer pour chaque truc?
Alors, à mon avis, si on parle de deux ou trois paragraphes, on est bien au-delà du court extrait. Et ça me surprendrait, étant donné que Flipboard, si je ne me trompe pas, c'est une société privée commerciale, qu'elle puisse y échapper. Elle doit avoir une certaine ampleur, enfin une certaine taille économique. Donc,
Oui, et puis ils font leur business en mettant leur propre pub au milieu de liens, on va dire, vers d'autres articles. Mais c'est jamais eux qui écrivent les articles. Hein. C'est un agrégateur, en fait, d'articles des autres, quoi.
Dans ce cas-là, ça fonctionne comme Google News, qui est aussi un agrégateur. Et je pense que Flipboard est dedans. Si, en tout cas, s'ils mettent des extraits aussi étoffés, ils seront dedans.
Oui. D'accord.
On est dans le cadre du texte, rappelons-le, c'est de très courts extraits. Ça veut dire very short extracts, de très courts extraits. Donc oui, clairement, si on a un paragraphe ou deux, je pense qu'on est en plein dedans. Parlons donc, et pour préciser, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire qu'il faut négocier des contrats de licence, par exemple. Il faudrait que chaque publication qui existe dans Flipboard... et une licence négociée avec Flipboard.
C'est la mort de Flipboard. Hein,
c'est honnête, possiblement la mort de Flipboard. Il faut voir aussi, et ça sera le cas pour le Content ID, le Content Filter aussi, il n'est pas impossible que des éditeurs se disent « Bon, bah, Flipboard, vous êtes encore petit, on va vous licencier le truc pour pas grand-chose. Le jour où vous serez plus grand, on demandera un petit peu plus d'argent. » Ça rend les choses... un petit peu plus difficile, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est totalement impossible. On va en parler encore dans un instant, mais pour ce qui est du content filter, donc, si vous connaissez le Content ID sur YouTube, Jérôme le connaît bien, il pourra nous parler des défauts de ce système, c'est l'article 13 établit que les grandes sociétés, encore une fois, il y a certains critères, mais les sociétés qui sont suffisamment grandes et qui font beaucoup d'activités doivent implémenter un système de filtrage a priori, donc au moment de l'upload du contenu sur leur plateforme, pour vérifier que le contenu en question ne contrevient pas au droit d'auteur d'un ayant droit. Si c'est le cas, soit ils ont négocié un accord de licence avec l'ayant droit en question, et a priori il faut qu'ils négocient un accord de licence, et du coup ils peuvent le publier, soit ils n'ont pas négocié et du coup, ils doivent le bloquer. Alors, là encore, on a certaines protections qui sont présentes dans le texte d'aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas aussi mises en avant dans les textes précédents ou même qui n'existaient pas parfois. Si il n'y a pas d'autorisation, il faut que les organismes en question, les sociétés, doivent... essayer d'obtenir une autorisation, ça veut dire s'il y a quelqu'un à qui parler, il faut essayer d'aller leur parler. Il faut respecter les standards de l'industrie pour s'assurer que les contenus soumis aux droits d'auteur ne soient pas disponibles sur leur plateforme. Et ils doivent s'assurer que quand ils sont notifiés de la présence d'un contenu qui n'est pas autorisé, ils le suppriment. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas une obligation de résultat, encore que c'est plutôt une obligation de moyens. Ce qui est un petit peu rassurant, on va dire. Ils doivent mettre en place les systèmes pour faire aussi bien qu'ils peuvent. S'il y a un truc qui passe, ils doivent le supprimer, mais c'est pas que tout de suite on fait fermer Twitter s'il y a un truc qui passe sur la plateforme. D'un autre côté, il y a aussi une protection qui dit que ce filtre ne doit pas interdire ou ne doit pas supprimer les contenus qui ne sont pas soumis aux droits d'auteur. Et il précise spécifiquement des choses comme le droit de citation, le droit à la critique et le droit de review. Enfin, le droit de... Bon, c'est la critique, on va dire. Et il y a aussi le cas de la caricature, de la parodie et du pastiche. Donc, on a vraiment un texte qui, aujourd'hui, comme pour l'article 11, même si on a aussi des préoccupations, un texte qui précise, on a le droit de citation, on a le droit à la critique, on a le droit à la caricature, on a le droit à la parodie. Donc, ces contenus-là doivent être autorisés sur les plateformes et ne sont pas propriété des ayants droit dont il provient. Alors évidemment, il faut encadrer la chose. Ça veut dire que si jamais on a l'un des critères pour le droit de citation, par exemple, c'est que ça soit un court extrait de l'œuvre. Si l'œuvre est un film, vous prenez un court extrait de 2 secondes pour faire un mime, bon, là, il n'y a pas de souci, c'est bon. Vous pouvez l'utiliser. Si l'œuvre est une photo, si c'est la photo de quelqu'un qui l'a mis sur Internet et que vous la récupérez, on pense au là encore, les mimes sont au cœur de cette réflexion, mais si on a un mime, par exemple, le Success Kid, vous savez, le gamin qui a le poing fermé et qui fait « Yes, j'ai gagné », bah ça, c'est qu'une photo, et c'est une photo d'un enfant qui existe, c'est une photo. Si vous l'utilisez pour faire un mime, a priori, bah vous utilisez l'œuvre entière. Donc ça serait soumis à cette réglementation. Donc c'est pour cadrer un petit peu la chose. Mais il n'empêche, le droit de citation, critique, caricature, etc. sont nommément, entre guillemets, respectés dans la loi. Là encore, quand je regarde les textes, moi qui étais en mode panique, je lève les bras au ciel et je cours dans toutes les directions en me cognant contre les murs et en criant « le monde est en train de s'arrêter », je vois ce texte et je me dis « ah, ok, alors effectivement, ça va avoir des conséquences, mais ils ont inclus des protections quand même substantielles. » Et je me retourne à nouveau vers Julien pour qu'il me confirme que j'ai raison de ne plus paniquer autant, peut-être, j'espère, mais qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, évidemment, comme tu l'as dit, il existe donc dans cet article 13 des exemptions pour certaines plateformes, comme par exemple Wikipédia, les encyclopédies à but non lucratif, les plateformes de développement logiciel comme GitHub.
Ce qui était toutes des préoccupations qu'on mettait en avant dans les premières versions du texte. Tout le monde disait, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer avec Wikipédia, qu'est-ce qui va se passer avec GitHub, etc.
Voilà, la fondation Wikimedia qui est derrière, qui promeut les encyclopédies, s'inquiétait beaucoup de savoir si ils allaient être affectés, donc ne plus pouvoir mettre en ligne des images, etc. Donc il y a des exemptions pour plusieurs plateformes. Il y a également, on va dire, un régime allégé pour les plateformes qui ont moins de 3 ans, donc les jeunes plateformes qui débutent, donc les startups typiquement, ou qui n'ont pas un certain chiffre d'affaires, ou qui n'ont pas un certain niveau d'audience. Donc là également, c'est un régime allégé, donc un régime qui peut basculer dans le régime général si ces plateformes connaissent du succès finalement, parce qu'au bout de 3 ans, donc elles ont continué à exister, elles ont accumulé du trafic, etc. Donc,
ça va vite 3 ans quand même, hein.
Voilà, ça va assez vite. Donc, les exemptions pour les petites plateformes finissent par disparaître. Et enfin, il y a, comme tu l'as dit, des exemptions au droit d'auteur. Donc, c'est des exemptions qui existaient déjà dans la loi française. Hein. Dans le code de la propriété intellectuelle, on a déjà des exemptions pour le pastiche, la caricature, les revues de presse, etc. Donc ça n'apporte pas vraiment de nouveauté. Par contre, il faudra voir la manière dont ça sera transposé en France. Parce que la France a historiquement, on va dire, un profil très, très allant pour la défense du droit d'auteur. Donc, entre ce que propose la directive et ce que pourrait être implémenté ensuite en France, il pourrait y avoir un écart et provoquer certaines surprises.
Bah, là, si c'est le cas, je pense que des gros organismes comme Google seront prompts à mettre la différence devant les tribunaux et là encore remonter à la Cour de justice de l'Union européenne pour s'assurer que la loi européenne est respectée et que chaque pays ne peut pas faire ses petits arrangements de cette manière, j'imagine, mais ça prendra du temps.
Enfin, ce qui risque surtout de se passer, et c'est ça qui est inquiétant dans le fond avec ça, c'est que tu parles de Google, moi forcément je pense à YouTube, hein, c'est là où je fais mon business. Ils vont pas prendre de risques. La notion de caricature, de parodie, de pastiche, tu peux pas apprendre ça à un ordinateur. Dans le pire des cas, ce qui va se passer, c'est que YouTube, qui aujourd'hui fait une validation extrêmement rapide à base de robots, si elle est obligée de faire une validation consultative de tous les uploads, déjà, il va y avoir une segmentation des uploaders. Il y aura peut-être des grosses chaînes YouTube qui vont pouvoir signer pour avoir une personne physique qui valide et juridique qui valide leur contenu. Mais tout ça va entraîner des délais qui sont complètement incompatibles avec la pratique de la plateforme. Les gens de chez YouTube nous disent, au pire des cas, ça va être 3 jours de validation pour n'importe quelle vidéo qui est uploadée, minimum. 3 jours de validation, ça veut dire qu'il y a, 30% du contenu actuel de YouTube, autant qu'ils disparaissent. On réagit dans l'instant, tout ce qui est news, tout ce qui est test de produits qui sortent. Si on a 3 jours de retard minimum sur le reste du monde, c'est foutu, quoi. C'est ça qui m'inquiète le plus, désolé, je donne déjà mon opinion, c'est que c'est bien beau, mais on sait que YouTube n'est pas viable si on met une agrégation humaine qui valide le contenu, ça tiendra pas debout et ça s'effondre. Ça ne tient que parce que YouTube valide avec des robots et les subtilités, les exceptions de cette loi, on ne peut pas les apprendre à des robots.
Alors, je suis d'accord sur ce point. Je dirais qu'il y a quand même cette question d'obligation de moyens et pas d'obligation de résultats dans un premier temps, qui veut dire que le Content ID de YouTube tel qu'il existe aujourd'hui, alors il y a des choses qui sont bloquées, mais ça serait les choses qui sont bloquées par le Content ID qui seraient bloquées pour le content filter. La différence, c'est qu'elles sont d'abord mises à disposition et puis le content ID peut les bloquer, mais ça arrive assez vite quand même. Quand le content ID repère qu'un élément d'une vidéo que vous avez uploadée appartient à quelqu'un d'autre. Et il y a évidemment énormément d'erreurs et de moments frustrants où on a une vidéo qui se fait bloquer alors qu'on respecte le droit de citation ou le droit de critique. Mais YouTube existe aujourd'hui même avec le Content ID et c'est ce que demande cette loi. Et j'ajouterais que dans le cas de YouTube, pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable, dans le cas de YouTube et des autres plateformes, la chose à laquelle on en revient systématiquement et sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent à implémenter, ça va être très un petit peu compliqué et prendre du temps et de l'argent à ces grandes sociétés. Et moi, je me demande si c'est pas en fait leur forcer la main pour transférer une partie de leurs profits monumentaux vers les ayants droit. Parce que, Jérôme, toi, tu penses à ton contenu qui n'utilise pas de contenu d'ayant droit. Mais il faut avouer que sur Internet, la culture du partage qui est cool, la culture du partage, tout est libre et on peut tout partager, il y a quand même de nombreuses fois où on utilise du contenu qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, on peut rien faire, donc on le fait et on laisse courir et c'est comme ça que ça marche. Mais ne serait-ce que la photo de un tel ou un tel qui a été utilisé, qui s'est transformé en mime, machin... peut-être que c'est pas juste qu'on puisse l'utiliser sans que la personne qui a pris la photo à la base puisse bénéficier d'un tout petit peu de rétribution. On dit pas que ça doit complètement assécher les finances de YouTube ou de Google ou de Twitter ou de Facebook. Mais si la personne qui a pris une photo qui est utilisée sur le web et qu'on peut la repérer automatiquement, il va recevoir quelques dizaines, quelques centaines d'euros pour son utilisation, et peut-être que c'est juste cette méthode. Et qu'est-ce que ça va coûter ? Oui, effectivement, ça va coûter peut-être une complication des méthodes d'upload, de mise à disposition. Mais au-delà de ça, ce que ça coûte, c'est de l'argent à ces immenses sociétés. Et c'est une partie, je pense, congrue de leurs profits. Alors évidemment, ils ne veulent pas. C'est ça, c'est ce transfert vers ceux qui, un petit peu forcé, vers ceux qui produisent le contenu.
Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Je suis un ayant droit, je suis un créateur. Donc je tiens à ce que mon contenu soit protégé. Moi, je vais te dire ce que j'ai dit aux gens de YouTube qui m'ont dit « Ouais, il faut faire une vidéo contre l'article 13. » Je dis « Vous nous demandez, en gros, de défendre un système qui marche déjà pas. Il est deux poids, deux mesures. dans la notion d'ayant droit aujourd'hui, c'est que des gros ayants droit. Et nous, YouTubeurs, on n'a pas de droit du tout. C'est un peu le... Donc, on ne peut pas nous se battre pour quelque chose qui, déjà, ne marche pas. Hein. Parce que le Content ID, il ne marche que dans un sens. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que quand tu es YouTubeur, si toi, un autre média, un gros média là, institutionnel, te pique du contenu, les moteurs, ils ne marchent pas. Hein. Ça bloque pas hein, sur les chaînes YouTube des gros ayants droit.
Julien, tu vas me dire si je me trompe, mais avec cette loi, ça serait le cas. Toi, Jérôme, tu auras tout à coup les mêmes droits que TF1 et France 2 et de c'est qui France 2, pas France 2.
Lapsus.
Ouais, et tu aurais les mêmes droits. Et ça serait pas justement YouTube qui décide « Ah bah alors ceux-là, on les aime bien, ils sont gros, donc ils ont le droit d'avoir accès à ce type de filtre et d'accord. »
Moi, c'est ce que j'ai dit. Cette loi, je trouve que c'est bien. Si elle est, mais pour l'instant, je ne vois pas dans cette loi quelque chose qui garantisse l'égalité des droits entre qu'est-ce qu'un ayant droit en fait ? C'est quoi un ayant droit ?
Un ayant droit, c'est quelqu'un qui a produit un contenu qui est soumis au droit d'auteur. C'est très simple.
Ouais,
et tu en fais partie. J'en fais partie. Tous ceux qui créent du contenu qui est soumis au droit d'auteur, on en fait partie.
Alors après, ce qui peut se poser, c'est aussi le rapport de force dans la négociation pour négocier des licences. Un YouTuber, même s'il est créatif et s'il est tout seul face à YouTube, YouTube pourrait très bien écoutez, non, on ne prend pas vos contenus, on veut pas négocier avec vous. Ça pourrait, là où YouTube va négocier...
Tu veux dire, Julien, tu veux dire, écoutez, si vous voulez qu'on vous paye, non, nous on s'en fout, on n'a pas besoin de vous, donc vous avez qu'à pas uploader sur notre plateforme, c'est ça ?
Ça risque d'être un peu le pot de terre contre le pot de fer. Le pot de fer, c'est YouTube, il est très costaud, et le YouTuber tout seul ou les YouTubers qui sont un peu tout seuls, ils n'auront pas forcément la même marge de manœuvre en termes de négociation que des grandes sociétés de gestion de droits comme la SACEM, la SACD,
ouais,
tout ça.
C'est pas forcément YouTubeur contre YouTube, c'est YouTubeur contre des gros ayants droit qui ont des moyens. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Comme tu dis, Patrick, là, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre de l'argent à Google. Le truc est, tu sais comme moi, que YouTube n'est pas rentable depuis très longtemps. Dégage certes des grosses sommes d'argent, mais coûte extrêmement cher à exister dans l'état où il est, c'est-à-dire où YouTube aujourd'hui, n'importe qui peut uploader. Donc une décision relativement simple, et moi j'ai peur que c'est ce qui arrive, c'est que Google dise « Ok, bon puisque c'est comme ça, tout le monde ne peut pas uploader, parce que nous on ne pourra pas contrôler le contenu de tout le monde ». Donc, il va y avoir en gros YouTube va se transformer en télé. C'est-à-dire que YouTube va passer des accords avec des gros YouTubeurs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être, et c'est, pour moi, c'est un danger et une certaine tristesse, la fin du YouTube populaire, ouvert sur tout le monde, où n'importe qui pouvait créer une chaîne. Mais je pense que YouTube, et ils nous ont un peu fait comprendre ça chez YouTube France, ça veut dire qu'il y aura des accords passés avec des gros diffuseurs, et j'en ferai peut-être partie, hein, parce que je ne suis pas un petit, mais ça veut dire que je n'aurais pas pu commencer.
Alors, le coup de YouTube, d'ailleurs, ils nous l'ont dit, ça franchement, je le prendrais avec d'énormes pincettes. Pareil avec l'histoire de « donc ça veut dire que ça va mettre 3 jours avant d'uploader votre truc ». YouTube s'est battu bec et ongle contre le truc, évidemment parce que c'est problématique pour eux, mais c'est parce que ça va leur coûter de l'argent aussi. Et je pense qu'ils ont tendance à grossir le trait, à noircir l'image. Et on est un petit peu dans ce que tu dis, comme on l'a été... Enfin, comme on l'est souvent dans ces cas-là, à prendre la pire situation possible, qui n'est pas irréaliste. Je ne dis pas que ce n'est pas irréaliste, c'est possible.
J'ajoute juste un truc avant que tu ailles plus loin. Il faut être un peu pragmatique. On connaît tous Google. Si YouTube redevient non rentable parce que ça engendre des coûts qui n'étaient pas prévus au départ... Google, ça va pas faire un pli. Et c'est du pragmatisme. C'est même
non, mais
pas,
Google, si Google ça leur ils vont pas fermer cher, YouTube. Jérôme, si c'est ça ton argument,
c'est pas ça que j'ai dit. Mais Google va dire, on va faire un YouTube beaucoup plus restrictif pour être sûr de pas perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher à YouTube, c'est d'être ouvert à tous.
Ce qui est sûr, c'est a priori, si la responsabilité pénale retombe sur YouTube parce qu'il n'y a pas eu d'accord de licence, la responsabilité des actes de contrefaçon vont tomber sur YouTube et YouTube ne voudra, enfin en tout cas Google ne voudra pas assumer les actes de contrefaçon, donc ils vont certainement filtrer très durement. Striker plus vite et bah du coup en termes de là typiquement de liberté d'expression ils voudront certainement mettre le curseur un peu plus loin quitte à sacrifier un petit peu les exemptions du droit d'auteur et à faire des recours ensuite pour chaque youtubeur que on va dire laisser les choses avec une certaine souplesse.
Moi je et suis quasi suis... persuadé que c'est la fin du YouTube ouvert à tout le monde.
Écoute, je vais te le ressortir, mais t'étais persuadé que le LG avec ses modules ajoutables était l'avenir du smartphone aussi. Donc, il y a parfois ouais, enfin, des visions
pas,
extrêmes.
C'est pas forcément non, bien sûr. Comparable. Mais
bien sûr, bien sûr, je plaisante.
Je pense que YouTube, si ça leur coûte de l'argent, ils vont pas disparaître, bien sûr que non. Mais ils vont revoir leur business model. Comme tu disais, Julien, YouTube ne pourra pas prendre la responsabilité pour tout le monde de l'upload. Donc, ils vont signer avec certaines chaînes, les grosses, et ne plus permettre l'entrée à n'importe qui de YouTube.
Non, mais c'est un exemple intéressant, YouTube, parce qu'ils ont déjà le Content ID en place. Et on se rend compte que, oui, ça pose des problèmes, ce Content ID, mais ça ne supprime pas toutes les vidéos de YouTube. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y a une autre solution pour éviter de se faire attraper par le Content ID ou le filtre à contenu, c'est de ne pas utiliser de contenu qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Oui, ça change un peu la nature de la plateforme, mais dire YouTube va restreindre son accès à quelques gros YouTubeurs, je suis désolé, c'est la version la plus cataclysmique, apocalyptique des conséquences de ce truc. Une conséquence beaucoup plus raisonnable, c'est qu'ils vont dire « Ok, on verrouille le filtre à contenu ». Tout ce qui est attrapable par le Content ID, eh ben, on l'attrape en amont et donc on publie même pas la vidéo avant de l'avoir. Enfin, si elle inclut un contenu qui allume les voyants, mais tout le reste du contenu continue à exister. Il y a une majorité quand même du contenu sur YouTube qui n'est pas bloqué par le Content ID. Donc, c'est cette vision, pour moi, la pire vision qu'on puisse avoir, c'est pas YouTube restreint l'accès, c'est que les créateurs de contenu, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec on est dans une ère d'Internet où tout est libre, on peut tout utiliser pour tout le monde parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Pour moi, la pire, entre guillemets, conséquence, c'est eh ben, on réapprend à créer le contenu en n'utilisant pas le contenu qui est soumis au droit d'auteur. Et oui, ouais, c'est moins marrant, et oui, c'est moins cool, mais c'est
non,
pas impossible.
Non, tu es un petit peu naïf, Patrick. C'est que le problème du Content ID tel qu'il existe aujourd'hui, c'est, et surtout depuis un an et demi, la multiplication des faux positifs et surtout certains qui jouent avec le système pour se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de Content ID est facilement contournable. Certains qui n'ont pas forcément les droits arrivent à bloquer des vidéos et le nombre de faux positifs devient de plus en plus important. Des chaînes comme la mienne, où je n'utilise pas une seule image venant de l'extérieur. J'ai vraiment pour principe de tout tourner. J'utilise des musiques qui viennent de plateformes qui sont exprès. Je me prends des faux positifs dans la gueule.
Ouais,
pour l'instant, le Content ID que tu as l'air de dire, bah, c'est déjà en place, ça marche. Non, il ne marche pas et il n'est pas juste.
Oui, mais
il
tu t'en prends combien, Jérôme? Je ne dis pas que c'est juste. Je dis pas, au contraire, je suis
mais
complètement
il marche pas,
d'accord. Non, d'accord. Mais combien de tes vidéos sont strikées?
Non, alors déjà, striker, c'est encore autre chose.
Pardon, pas striker. D'accord, mais
non,
jouons pas sur les mots, tu
comprends ce que je veux dire. Il y a le strike, la démonétisation et le strike. Mais on va dire globalement, ça revient à la même chose. Si tu enlèves au créateur son revenu, c'est un peu comme si tu bloquais
tout
sa vidéo.
Fait,
quoi.
Oui. Mais donc, quel pourcentage de tes vidéos sont touchées par les sanctions du Content ID?
À moi, c'est très peu. Mais ce que je veux dire, c'est que moi qui fais très attention à ça, ça m'arrive d'avoir des faux positifs.
Tout à fait.
Donc, imagine n'importe quelle chaîne qui fait même pas du parodique ou tout ça, mais qui va chantonner du Star Wars ou qui va même évoquer... Là, je te peut-être fais un truc, tu vois, j'ai évoqué Star Wars. Si le moteur est mal réglé, bim, il va t'enlever le contenu.
Je pense encore que tu vois les choses très, très en noir. Moi, je crois que qu'on va voir peut-être arriver, c'est beaucoup de chaînes comme la tienne où les gens font attention à faire du contenu. Et c'est pas forcément une bonne chose. Moi, je regarde énormément de vidéos sur YouTube où il y a des gens qui commentent des jeux vidéo ou des films ou des trucs comme ça qui utilisent du contenu. Oui. Mais je suis pas sûr que ça soit fini. C'est qu'il faut passer un accord avec l'ayant droit.
Et Patrick, dire... quand t'es un YouTuber tout seul...
Non, toi, c'est YouTube. Ouais. C'est ça dont il faut se souvenir. YouTube doit passer des accords avec les ayants droit.
Mais
c'est
tu crois que YouTube va... qu'est-ce que YouTube va préférer ? Démonétiser ton contenu ou te bloquer ou développer des ressources pour aller négocier les droits pour toi ?
Non, moi, je crois qu'ils vont justement améliorer le système de content chaîne. ID. Non, mais c'est pas pour toi qu'ils vont négocier les droits. C'est qu'ils négocient avec, par exemple, je sais pas, Avengers Infinity War, Avengers Endgame sort dans quelques mois. Si on est déjà sous ce système, Google va voir Disney, il leur dit, bon, alors, pour vos contenus, il y a les trailers. Pour les trailers, on fait quoi ? Ces images-là, on les autorise ou alors vous voulez qu'on vous paye tel pourcentage par utilisation. Sachez que si on doit vous payer, bah, ça risque d'être compliqué parce qu'on n'aura pas autant les mains libres pour le faire utiliser et vous aurez moins de promotion. Qu'est-ce que vous voulez ? Disney leur dit, bon, allez, pour les trailers, ça va. Pour ces images-là qui ne sont pas dans les trailers, il faut nous payer tant. Et voilà. Et après, toi, le système est automatisé. Ce n'est pas toi qui vas devoir les négocier avec Disney. Donc, il faut qu'on avance, on a fait le tour et je comprends tout à fait tes préoccupations et je pense qu'elles sont complètement légitimes, mais je pense que comme quand on avait parlé de du droit à l'oubli, et moi le premier, j'avais dit « Ah, mais droit à l'oubli, rendez-vous compte, ça efface des morceaux d'Internet, si on ne peut plus retrouver sur Google, ça veut dire qu'on peut faire de la censure, ça veut dire que les gens qui n'aiment pas ce qu'il y a sur eux, sur tel endroit, peuvent effacer ça de leur histoire. » Et on s'est rendu compte qu'en réalité, bah, ça fait quoi, 2-3 ans que le droit à l'oubli existe, il n'y a jamais eu un scandale où quelqu'un a voulu faire supprimer un truc, je ne sais pas, un homme politique ou un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que dans le système, il est précisé, si c'est un truc d'utilité publique, on ne peut pas l'effacer. Et Google s'est démerdé et il a lu la loi, il a lu l'intention de la loi et il a mis en place un système qui leur a coûté cher, mais qui, au final, n'a pas réalisé les craintes que même moi, j'avais. Et moi, j'en ai parlé dans l'émission, avec une vue, je crois, un petit peu catastrophiste, où je me disais, ah, mais c'est la fin de l'archive du net telle qu'on la connaît. Ben non, ça n'a pas eu cette conséquence-là. Il y a des préoccupations qu'on peut avoir, et peut-être que là, légalement, Julien sera d'accord aussi. Il y a des questions comme, par exemple, si moi, individuel, je mets une photo sur Twitter, j'ai pas d'entité commerciale, j'ai pas de gain monétaire au fait de mettre une photo sur Twitter, mais Twitter, eux, ils font de l'argent avec l'affichage de pub sur le flux des gens. Est-ce que ça veut dire que c'est une utilisation commerciale ou pas ? Le passage de plateforme à personne ou de personne à plateforme est un casse-tête juridique. Et ça, je suis sûr que ça va donner des casse-têtes à de nombreux juges.
Mais... Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il y aura certainement beaucoup de précisions qui seront apportées déjà dans la transposition de la loi. Après, il faudra également voir comment réagit Google, parce que l'une des grandes inconnues, c'est la réaction de Google. Ouais. Quand il y a eu en Espagne les projets de rémunération à travers le portail Google News pour la presse, là, ils avaient fermé Google News. On va voir est-ce que Google va s'adapter ? Est-ce que Google va... muscler un petit peu son rapport avec les ayants droit, avec les youtubeurs. On va dire qu'il y a beaucoup d'inconnus encore sur ce dossier.
Sur la vision, moi j'ai vraiment l'impression que ça va beaucoup moins mal se passer que les gens ne le craignent. Je crois qu'on est dans un cas où genre c'est moins pire. Moins pire que ce qu'on pensait. Mais Julien, du coup, je vais demander, par rapport à ce que disait Jérôme et qui exprime des préoccupations qui, je crois, sont communes et encore une fois légitimes de la part de nombreux créateurs et notamment sur YouTube, est-ce que tu as une vision plutôt comparable à celle de Jérôme ou un petit peu plus optimiste comme moi ou entre les deux ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce que disait Jérôme ?
Je dirais que je trouve que l'intention de cette loi est bonne parce que la précédente directive est datée de 2001 à une époque où YouTube n'existait pas, Facebook n'existait pas. Il n'y avait pas ce rapport de force déséquilibré entre les grandes plateformes américaines et puis le reste du monde. Maintenant, entre les intentions et on va dire la mise en pratique, la mise en chantier et on va dire la mise en production d'un texte de loi, il peut y avoir un décalage. Donc, moi, on va dire que je suis dans l'incertitude. J'attends la fin de l'année parce qu'il va y avoir des transpositions. Donc, d'abord en mai, puis après pendant l'été des articles. Donc, on va dire que je suis dans l'expectative. J'attends de voir. Oui. Je suis pas alarmé, mais je suis pas non plus tout à fait confiant et rassuré parce que Google a des intérêts économiques à préserver sur des plateformes où il a du mal à gagner de l'argent. Donc, et puis l'Europe pour Google, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il a d'autres marchés dans le monde.
Non, mais c'est pas un marché négligeable. Là où on dit l'Espagne, non. Effectivement, il pouvait s'en passer. C'est pour ça que cet exemple me paraît pas forcément comparable à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. L'Espagne, en fait, Google, oui. Si on dit vous perdez les revenus de l'Espagne sur Google News. Ok, c'est pas grave, on tire un coup de semonce et on enlève Google News en Espagne. Sur l'ensemble de l'Union européenne, c'est quand même un énorme marché pour Google, peut-être le plus gros, et on parle de Google, il y a tous les autres aussi. C'est difficile de se dire, fuck all of you, et puis on ferme
sauf
tout.
Sauf si c'est un marché où tu gagnes pas d'argent. Si ça te coûte plus que ce que tu gagnes, quelle que soit la taille du marché.
Là encore, je suis pas certain qu'ils gagnent pas d'argent en Europe, Google, tu vois. Mais je te donne le mot de la fin, Jérôme. On va conclure sur ce sujet et je te donne le mot de la fin parce que je t'ai beaucoup contredit, donc je compense.
J'ai le mot de la fin là.
Oui. Enfin, tu dis ce que tu veux,
Juste, non, mais moi, de toute façon, je fais pas l'avocat du diable, je fais l'avocat tout court. En fait, le gros problème, moi, ce qui m'inquiète. Je suis d'accord avec Julien, il y a des très bonnes choses dans cette loi et c'est bien une mise à jour. Si derrière j'ai la certitude que la définition d'un ayant droit, elle s'applique à tout le monde, moi ça me va parce que je suis créateur de contenu, ça me demande du travail, j'aimerais bien que mon contenu soit plus protégé qu'il ne l'est actuellement parce qu'il est très vulnérable. Ce qui m'inquiète beaucoup et ce que je ne vois pas dans les textes de loi, c'est que j'ai quand même l'impression tout ça a été décidé avec des lobbying, que ça soit le lobbying de YouTube. Hein. Je sais très bien que YouTube nous a baladé aussi, versus un autre lobbying d'ayant droit institutionnel, gros, qui ont effectivement du mal, enfin qui voient leur contenu pillé, donc qui veulent le défendre. J'ai pas l'impression qu'il y ait une représentation quelconque dans ces décisions. De tout ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire nous, et de ce qu'est Internet aujourd'hui. Je parle vraiment des petits créateurs, je parle même pas de moi, je parle des gens qui ont 100 abonnés à leur chaîne, mais ça les fait kiffer, quoi. Est-ce que ça va disparaître dans la tourmente, parce que maintenant, fini de jouer, on est dans la cour des ayants droit, tout va se négocier avec des contrats, etc. Je dis que c'est le risque. Le risque, c'est que finalement, moi, je m'en sorte, les gros s'en sortent, mais qu'un certain Internet, mais peut-être que c'est ça hein, le sens de l'histoire, un certain Internet de quelqu'un qui décide spontanément de faire sa chaîne YouTube avec des maladresses et tout, ne puisse plus exister parce que Google et YouTube ne voudra plus prendre de responsabilité sans avoir signé des accords avec certaines entités. Quoi.
Voilà. Bon, j'ai déjà dit ce que je pensais de cette vision, donc je te laisse, comme j'avais dit, le dernier mot. J'ajoute, j'espère que ça vous aura été utile, toute cette conversation. Comme vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup d'expectatives, on n'est pas sûr de ce qui va se passer, évidemment. Je crois que on est tous d'accord quand même pour dire que le texte est moins inquiétant que ce qu'on avait vu à l'origine il y a quelques mois, il y a un an. Rapide tour de table, là on a des garde-fous qui ont été mis en place, je crois. Oui, non. Julien ?
Alors voilà, il y a des garde-fous. Est-ce qu'ils sont suffisants et est-ce que, on va dire, les éléments dans la loi devront être précisées. Oui, là, il faudra certainement le faire. Typiquement, là, les courts extraits dont on parlait au début de, au début de l'émission, il faudra certainement préciser ça.
Ouais. Oui, et surtout, comment ils vont faire ? Parce que c'est bien beau de dire les caricatures, les parodies et les pastiches sont couverts, mais actuellement, on ne sait pas faire, quoi, ça.
Ouais. Bon, ce que je note, en tout cas, c'est qu'il y a eu plusieurs sujets, plusieurs annonces qui visent à encadrer l'activité des GAFA et des grands de la tech. On a vu Google qui a établi un comité extérieur de conseil sur l'intelligence artificielle qui va se réunir 4 fois par an pour déterminer la manière dont l'intelligence artificielle doit gérer les choses. Tout simplement, on pense à la reconnaissance faciale que de nombreux acteurs de l'intelligence artificielle ont demandé à être régulés. On a vu Mark Zuckerberg qui a publié un article, un long article dans le Washington Post qui dit « Il faut que nos industries soient régulées ». Il parle des États-Unis, mais ça s'applique en général, comme le fait de réguler le contenu qui peut être néfaste, l'élection, les intégrités des élections, la vie privée, la portabilité des données. Alors évidemment, quand Zuckerberg, et c'est pas le premier, appelle à une régulation, c'est un petit peu pour se mettre en avant de la marche de l'histoire et essayer de contrôler un petit peu son cours, mais c'est quand même assez significatif de voir que ils sont, eux, en train de demander des lois. On voit que Twitter va ajouter des mentions sur les tweets pour expliquer pourquoi un tweet est toujours visible, même s'il contrevient aux règles. C'est hyper intéressant. Il y a Facebook qui va faire un petit ajout à tous ces articles, toutes les updates que vous allez voir dans votre flux pour voir pourquoi vous voyez ce contenu. Vous allez voir, est-ce que c'est... Alors, c'est parce que vous êtes ami avec un tel, vous avez liké des posts de cette page, vous habitez dans telle zone, et vous comprendrez enfin pourquoi l'algorithme vous a sélectionné ce contenu pour les voir. Enfin, il y a dans l'ensemble un mouvement qui, à mon sens, est notable, où les grands de la tech sont en train de se dire « Bon, tout ça, c'est le bordel. Vous nous dites en permanence « Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire le contraire, il faut faire le troisième. » Nous, on ne s'y retrouve pas. Il y a des problèmes et il faut qu'on ait des lois solides pour savoir où on va. » Et alors là, je fais une sorte de grand écart avec ce dont on vient de parler. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce contexte aussi. C'est pas parfait, mais au moins, ça pose les jalons. Et évidemment, ça fait forcément des mécontents, mais c'est peut-être mieux que de dire « Google, vous faites ce que vous voulez, Content ID, c'est pour qui veut, et vous donnez la priorité aux gens qui vous payent, donc les gens qui payent pour de la pub. Twitter, vous faites ce que vous voulez ici. Facebook, c'est comme vous le sentez. » Bon, je sais pas. Moi, j'étais le premier à craindre la fin de l'innocence de l'Internet, mais je me demande si elle n'est pas nécessaire, finalement.
Bah, pour les appels là, des grandes plateformes du web, il faut quand même noter qu'elles le font dans un contexte où il y a eu plusieurs scandales et plusieurs affaires. Et en fait, c'est plus par la pression politique et la pression populaire de leur demander de commencer à se réguler ou alors de le faire par la loi, qu'un mouvement spontané de leur part en disant bon allez on se régule. C'est parce qu'il y a eu des affaires comme Cambridge Analytica que maintenant il faut bouger.
Non, bien sûr, tout à fait, mais ça n'enlève pas la réalité de la situation. Je crois qu'ils sont, si je peins le tableau peut-être de manière un petit peu gentille pour les GAFA, mais ils sont dans des situations où on leur demande de faire des choses sans préciser les détails. On leur dit filtrez mieux ou soyez plus protégez mieux la liberté d'expression ou protégez mieux les, enfin supprimez mieux les contenus qui sont offensifs, enfin les contenus dangereux. Mais on leur dit pas, il y a pas de loi et de règles, parce que quand ils suppriment un truc, on leur dit « Ah bah vous attaquez la liberté d'expression ». Quand ils autorisent un truc, on leur dit « Bah vous ne respectez pas les enfin bref ». C'est les lois telles qu'elles sont écrites aujourd'hui ne correspondent pas 100% aux situations qu'ils rencontrent, et donc ça crée ces situations où je crois il est difficile pour eux de s'en sortir, et ils veulent des règles claires. Moi je crois qu'il y a vraiment un peu de ça.
Effectivement, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on fait de ces géants de la tech des auxiliaires de la puissance publique, puisque normalement, ça devrait être à la puissance publique, typiquement pour les contenus terroristes, ça devrait être les juges, ça devrait être l'administration éventuellement d'intervenir. Alors que là,
mais c'est pas possible puisqu'il y en a des dizaines de milliers, donc il faut d'autres règles.
Entre, on va dire, les principes législatifs et la réalité de YouTube, enfin Google doit gérer des centaines de cas, des milliers de cas, des dizaines de milliers de cas, il y a toujours un écart.
Je pense qu'il y a aussi un problème là pour ces grands GAFA, c'est au niveau bourse, c'est que les actionnaires sont extrêmement inquiets parce que dans cette période d'incertitude où effectivement, suite à des scandales, l'opinion publique aussi ouvre les yeux, hein. Moi je pense que la courte histoire d'Internet retiendra cette période comme le grand déniaisement, hein, au sens français, pas au sens québécois, où on commence, et le grand public, même nos parents commencent à s'apercevoir, ou les gens qui n'y connaissent rien commencent à s'apercevoir qu'il y a un problème, ça inquiète beaucoup les actionnaires, parce que comment Google va faire de l'argent dans les 10 à 20 ans à venir? Comment Facebook va faire de l'argent dans les 10 à 20 ans? Tant que les lois ne sont pas décidées, tant que les règles ne sont pas redéfinies, on ne peut pas vraiment se lancer dans du business. Donc ça devient assez urgent pour Facebook, pour Google, qu'il y ait des règles du jeu pour qu'ils puissent retrouver en fait des sources de business. C'est fini, on va dire, la décade ils s'en sont foutu plein les fouilles avec ce faux Internet gratuit. Maintenant, il faut trouver les business de demain, quoi.
Et on voit effectivement que les deux qui sont le plus en avance sur ces questions, c'est Google et Facebook, qui sont en fait des régies publicitaires et qui n'ont pas d'autre business que le fait de vendre de la pub. Donc, ouais. Écoutez, merci pour ces deux discussions sur deux sujets compliqués. Maintenant, on va pouvoir se laver un petit peu la tête avec une série de news et rumeurs bien sympathiques. J'ai quand même, avant ça, je vais prendre une toute petite minute pour vous rappeler que cette émission et tout le travail qu'elle nécessite en amont et en... c'est quoi le contraire de amont?
Aval.
En aval, voilà, en aval. Merci, Patrick parle bien la France. Donc, tout ça, c'est financé par vous, les auditeurs. On parlait de Régipub à l'instant, ici, il n'y en a pas. C'est vous qui choisissez de soutenir l'émission si elle vous apporte quelque chose, si elle vous distrait, si elle vous informe. Et si vous l'écoutez depuis un moment, je ne dis pas qu'il faut commencer à soutenir l'émission à la première écoute, mais si vous écoutez depuis quelques mois, peut-être quelques années, l'émission existe depuis plus de 10 ans maintenant, peut-être dites-vous, ouais, ok, allez, 1 $ par épisode, c'est quand même pas grand-chose, peut-être 2 si vous voulez avoir accès au Slack de l'émission, qui est un endroit magnifique où tout le monde est ami et où tout le monde est sympathique, mais même à partir de 1 $, vous avez droit au podcast privé des Patriotes, où je mets du contenu audio régulièrement, donc voilà, vous pouvez décider de participer à ce Patreon sur patreon.com/rdvtech, et c'est grâce à vous que l'émission existe, et nous, j'ai pas tous ces problèmes qui se posent à tous les organes de presse du monde, parce que vous êtes là et parce que vous répondez présent. Donc, merci à vous tous et merci à tous les patriotes qui soutiennent l'émission. Bon, j'ai dit on allait s'amuser un petit peu, mais sujet sérieux. Chris Capossela, le chef du marketing de Microsoft, a pris une décision grave, mais importante et surtout qui était très bienvenue. Il a dit aux employés de Microsoft 2 jours avant le 1er avril, il leur a dit « Bon, écoutez, les poissons d'avril sur la tech, on en a tous marre, ça suffit, c'est terminé, vous ne postez pas de blagues du 1er avril, s'il vous plaît, cette année. » Et je crois que la plupart de la tech a fait la même chose. Il y a eu quand même quelques petites plaisanteries, mais je crois que maintenant, c'est terminé. Les poissons d'avril dans la tech, je crois qu'on a tous eu notre dose et que là, il est temps de prendre un petit peu une respiration. Et d'ailleurs, vous vous en rendez compte, on n'a pas du tout de sujet sur le 1er avril dans cet épisode, alors qu'on est le 2. Donc, moi, je suis contre le 1er avril. Voilà.
Ouais, moi, je trouve ça un petit peu triste quand même.
Oh, ça reviendra, mais...
Disons quand c'est des blagues bon enfant où on peut croire que quand ça semble vraiment faux et complètement fou, d'accord. Mais quand on fait des blagues, on va dire entre deux eaux où ça pourrait rentrer dans le réel, il y avait une blague là, soi-disant que Mounir Majoubi rejoindrait Amazon. Comme ça rentre dans les choses qui sont plausibles techniquement, c'est plus très amusant quoi, et ça rentre dans les fake news.
C'est ça. Et puis c'est surtout toujours les mêmes. C'est pas les mêmes blagues, mais c'est la même mécanique. Et donc au bout d'un moment, c'est un petit peu comme, l'oncle un petit peu relou qui fait toujours la même blague débile à chaque fois que tu le rencontres à son déjeuner. Les trois premières fois, c'est marrant. Et puis au bout d'un moment, tu dis ah ouais, ok bon. Bref.
Ah, donc, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on en mange, c'est vrai qu'on peut peut-être passer à autre chose.
Voilà. Et puis peut-être 3-4 ans de calme, et puis ça pourra revenir après, mais...
Voilà.
À propos de plaisanterie du 1er avril, ça n'en est pas une. Je vais lire quelques news Apple et puis vous pourrez réagir après. Apple a annulé son fameux AirPower, son petit tapis de chargement de chargement sans fil qu'ils avaient présenté il y a plus d'un an avec la sortie de l'iPhone 10. Il a été décalé et finalement il a été complètement annulé. C'est très surprenant pour Apple. On a plusieurs explications possibles. Soit c'était parce que techniquement c'était compliqué, parce qu'il y avait, comment on dit coil en français, les bobines, je crois. Dans un système de chargement sans fil, il y a généralement une bobine et il faut mettre l'objet à charger, le téléphone, pile au bon endroit, à quelques millimètres près. Ce que voulait faire Apple, c'était en mettre plein, genre jusqu'à 20 ou 30 dans l'appareil, de manière à ce qu'on puisse mettre le téléphone ou l'autre appareil n'importe où et ça chargerait quand même. Et ben, il se trouve que physiquement, il semblerait que ça soit compliqué, que ça chauffe trop et que s'il y ait un effet de résonance entre les bobines et du coup, ça ne fonctionne pas. Et d'autres personnes disent, en fait, ils ont réussi à le faire fonctionner, mais ça émettait tellement d'ondes que les organismes de régulation ne pouvaient pas l'accepter parce que ça pouvait poser des problèmes à des appareils de médicaux type pacemaker, ce genre de choses. Donc finalement, ils ont dû arrêter. Ils s'excusent encore une fois, une troisième fois, pour leur keyboard papillon, leur clavier papillon des MacBook Pro. Joanna Stern a, dans le Wall Street Journal, un article formidable où elle a écrit tout l'article et elle a mis des petits interrupteurs sur la page pour afficher les erreurs que lui provoque son clavier. Genre, on a les E qui sont doublés ou on n'a pas les L. Et donc, on peut lire l'article en fonction de ce qu'on a coché ou décoché pour lire l'article comme le clavier du Mac le tape. Et encore une fois, c'est la troisième version de ce clavier, Apple doit encore s'excuser parce que, entre guillemets, un petit nombre d'utilisateurs a des problèmes avec le clavier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un petit nombre quand ils en vendent des dizaines ou des centaines de milliers? Est-ce que c'est des milliers? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 0,01%? On ne sait pas, c'est un petit nombre. Mais le fait est que le clavier pose encore des problèmes. Apple, là, du coup, peut-être un petit peu plus positif, l'électrocardiogramme avec l'Apple Watch 4 est disponible en Europe et en France notamment, dans certains pays d'Europe. Et j'ai pu, moi, faire mon test d'électrocardiogramme avec mon Apple Watch. Ça marche très bien. Mon rythme est sinusoïdal, donc tout va bien. Merci d'avoir demandé. Visiblement, tout le bacon que j'ai mangé n'a pas posé trop de problèmes. Non, c'est pas exactement ça que ça repère. Et enfin, les iPhone 2019 auraient une capacité de batterie augmentée et donc ils seraient un petit peu plus épais, possiblement, et ils auraient la charge bidirectionnelle, comme c'est le cas avec les derniers téléphones de Samsung pour charger, par exemple, vos AirPods 2 sur votre téléphone Apple. Voilà pour les news Apple. Des commentaires sur ça, lâchez-vous.
Alors moi, je suis toujours un peu surpris par les soucis de production d'Apple pour leur matériel, parce qu'ils ont tellement une réputation d'excellence en termes de finition et en termes de qualité de produit que lorsqu'ils ont des problèmes de clavier papillon ou de bobine dans leur AirPower, je suis toujours étonné pour une marque comme Apple.
Le clavier papillon, c'est vraiment un gros problème parce que ça fait trois générations et ils continuent à essayer de l'améliorer, ils n'arrivent pas. Sur le AirPower, je dirais, bah, ils ont pris la bonne décision. Ils n'auraient pas dû l'annoncer, en fait, parce qu'il n'était pas prêt. Je pense qu'ils n'étaient pas loin de réussir et puis ils se sont rendus compte finalement que ces derniers 5% étaient fatals. Mais ils ont pris la bonne décision, c'est de ne pas le sortir parce que s'ils l'avaient sorti et que ça ne marchait pas. Mais pour le clavier, c'est sûr que...
Ouais, je pense qu'en plus, le deuxième argument par rapport à des organismes de santé, si effectivement ça a balancé beaucoup d'ondes et tout.
Ah oui,
vu que Apple va très fortement sur le positionnement quand même médical, à travers l'Apple Watch, ça aurait pas été compatible. Je serais pas surpris d'ailleurs que l'année prochaine, ou les futures générations d'iPhone, ils réduisent les ondes, enfin qu'il y ait un argument santé aussi, toujours en étant anti-Android, en disant nous, nos smartphones vous font moins de mal que les autres.
Ouais.
Donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le produit. Ouais.
Les iPhones ralentissent la perte de cheveux, redonnent vitalité. Non mais c'est vrai que c'est possible.
Oui, après il y aura peut-être des capteurs dans les iPhones qu'on ne soupçonne pas mais qui aideront. J'y crois beaucoup à Apple sur le domaine de la santé. Hein.
Ah bah c'est sûr, oui, c'est l'un de leurs points forts et tu as raison, je n'avais pas pensé à l'idée qu'ils puissent positionner d'une manière ou d'une autre le téléphone comme quelque chose de meilleur ou moins nocif pour la santé que la concurrence, mais c'est tout à fait possible, ouais, tu as raison. D'ailleurs, même si c'est sur des questions qui sont pas forcément prouvées, on ne sait pas si les ondes émises par les téléphones sont nocives pour la santé. Les études sont totalement inconclusives, mais peut-être dans le je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord dans les commentaires, j'en suis sûr, mais le fait est que la science est de cet avis, mais juste pour le cas où, parce qu'inconclusif, ça veut dire que peut-être, on ne sait pas trop. Enfin, pas tout à fait. Bref, mais pour le cas où, Apple pourrait dire, bon, bah, avec nous, vous êtes plus tranquille qu'avec la concurrence. Le Huawei P30 Pro a été annoncé. Téléphone avec 4 caméras. Il y a un P30 pas Pro qui est un petit peu plus simple, mais le P30 Pro est impressionnant au niveau de la caméra. Pour le zoom, il y a un zoom 10 fois optique et un zoom 50 fois dont la stabilité est hyper impressionnante. Je ne sais pas pourquoi on aurait besoin d'un zoom 50 fois, mais il y est. Photos de nuit qui ont l'air d'être prises de jour. Jérôme, toi, je sais que tu es très photo. C'est un appareil quand même impressionnant.
50 fois, non, c'est 5 fois.
Non, 50 fois en numérique. Hein. C'est,
non, ça c'est débile.
Non, mais il n'est pas mauvais. Et en plus, il est hyper stable, il stabilise. Non, mais pas mauvais, je veux dire, tu ne vas pas prendre des photos. Mais 50 fois, si tu veux espionner ton voisin à l'autre bout de la ville, c'est... Et, bah, tu peux...
ouais.
Et franchement, le zoom, parce qu'à 50 fois, tu trembles la main un tout petit peu. Normalement, ton image fait...
Oui, et après, c'est stabilisé optiquement.
Et bah, c'est hyper bien stabilisé optiquement et numériquement. Mais bon... Est-ce que c'est un téléphone qui te séduit pour son aspect caméra? Parce qu'au-delà du gadget 50
fois, comme je descends en gros de l'avion
T'as pas regardé.
J'ai pas encore eu en main, j'ai pas encore vraiment regardé. Je sais juste que Huawei, mais il va très fort sur la partie photo. Effectivement, moi là, j'ai le Galaxy S10 en main. Là, pour le coup, je le dis, exclusivité à tes auditeurs, il enterre pour moi l'iPhone au niveau photo. Je crois que effectivement, le Huawei lui souffle dans la nuque, et notamment, ce qui m'a beaucoup épaté cette année, c'est le Pixel 3 et son mode nuit. Et a priori, de ce que j'ai vu, hein, j'ai pas testé moi-même, le P30 Pro fait encore mieux que Google sur ce coup-là.
C'est ça, ouais. Tout à fait.
Donc, c'est pas des choses ultra importantes, mais c'est des trucs ultra bluffants qui font vendre du smartphone ces bonnes nuits.
On a un système de 4 caméras. Là, on est, enfin, tous les appareils photo de tous les téléphones, en gros, sont bons. Et là, on est dans des détails, mais ces détails peuvent compter, ouais.
Tout à fait, et c'est vrai que, en tout cas, avec le Galaxy S10 et je pense avec le P30 de Huawei, les trois caméras, parce qu'en fait la quatrième elle sert un peu à autre chose, mais on va dire les trois longueurs focales, c'est rigolo et c'est plutôt utile. Je pense qu'on est arrivé à une phase de maturité photo où les gens peuvent bien s'éclater avec trois longueurs focales, et ça évite de devoir acheter des lentilles qu'on ajoute à son smartphone pour changer ses longueurs focales, et c'est plutôt fun et bien implémenté.
Les prochains iPhones devraient aussi avoir trois appareils photo à l'arrière.
Ouais.
Donc, Quoi d'autre, quoi d'autre? Ah oui, donc, puisqu'on parle de Huawei, en gros, je résume et Julien pourra me corriger, l'Union européenne et l'Angleterre l'Union européenne a demandé des études sur la cybersécurité de la 5G en général, sans nommer Huawei spécifiquement, mais veut prendre des décisions sur la 5G et sur quels équipements ils peuvent utiliser ou pas d'ici la fin 2019, mais ils veulent faire une étude de sécurité avant ça, ce qui est peut-être une bonne chose, et notamment une évaluation des risques avant d'ici la fin juillet, avec le reste du processus qui se terminera d'ici fin 2019. Et l'Angleterre a fait une étude poussée des équipements Huawei spécifiquement et a trouvé des problèmes de sécurité significatifs qui sont répétés depuis l'année dernière, qui n'ont pas été corrigés par Huawei. Donc ça, c'est préoccupant. Mais ce sont des problèmes qui sont dus, pour résumer, plus à de l'incompétence technique qu'à des problèmes d'espionnage étatique. Donc, ils n'ont pas trouvé de problème d'outils qui auraient pu être mis en place par le gouvernement chinois. Par contre, ils ont trouvé des failles de sécurité basiques que Huawei n'a pas corrigées, en plus, depuis le début de l'étude l'année dernière, qui fait qu'ils disent, c'est des trucs qui peuvent être gérés, comme on le disait à l'épisode où on parlait avec Cédric et Elsa il y a quelques temps, les équipementiers savent gérer ces problèmes et tous les équipements ont des petits problèmes à gérer. Chez Huawei, c'est clairement pas la meilleure note à ce niveau de tous les équipementiers sur ces domaines. Donc, petite mauvaise note pour Huawei, mais pas du point de vue de l'espionnage entre les États.
Voilà, ce qui est important de noter, c'est que l'Europe, quand elle a fait sa recommandation aux États pour qu'ils évaluent chacun leur futur réseau 5G, c'est qu'elle n'a pas dit qu'on devait bannir Huawei ou un autre constructeur. Contrairement aux États-Unis et à plusieurs autres pays dans le monde où ils ont l'intention de bannir Huawei, l'Europe pour l'instant temporise. Et en France, de ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant projet de bannir Huawei parce que, comme on ne sait pas. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils travailleraient en sous-main pour Pékin, mais ce n'est pas démontré pour l'instant. S'il y a des preuves, elles sont cachées.
Google va lancer AMP, c'est Accelerated Mobile Pages à l'origine, mais pour les mails, ce que ça veut dire, c'est que ça va permettre de l'interactivité dans vos emails. C'est vrai que l'email est un outil hyper respectable et vénérable, mais qui n'a pas évolué depuis très longtemps. Et bien là, ça fait évoluer un petit peu les mails. Ça marchera dans Gmail, dans Yahoo Mail, dans Outlook et dans mail.ru. C'est un standard qui est, je crois, ouvert. Je dis peut-être une bêtise.
Je crois qu'il est ouvert.
Ouais, je crois que c'est le cas. Et donc, ça va permettre d'avoir en fait des mails qui se comportent un petit peu comme des pages web au niveau de l'interactivité, je simplifie, mais c'est sans doute une bonne nouvelle, je crois. Amazon est en train de planifier, selon certaines rumeurs, un service de news vidéo gratuit pour ses Fire TV. Gratuit, donc financé par la pub, bien sûr. Je ne sais pas si on a besoin d'encore plus de ça, mais Amazon y travaille. Ça sera des émissions d'informations tirées de la télévision. Le Parlement européen a voté la fin du changement d'heure et ça sera 2021. Alors, est-ce qu'on va rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été? Je ne sais pas. D'ailleurs, l'heure d'hiver, c'est l'heure où l'heure naturelle, c'est-à-dire où le soleil est au zénith à midi, normalement.
Ouais, je crois qu'on resterait plus à l'heure d'hiver parce que sinon, t'imagines, en hiver, il ferait nuit très, 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 très tôt, enfin, dans l'après-midi.
Mais en même temps, attends, l'heure d'hiver, c'est l'heure qu'on a implémentée parce qu'on voulait qu'on ait plus de soleil pour les champs,
des
pour les paysans.
Des économies d'énergie.
C'est ça.
Ouais,
et donc, c'est l'heure d'hiver qui est artificielle, pas l'heure d'été. Je sais plus, je m'y perds, moi. À chaque fois,
j'ai un doute. Il me semble qu'il y a eu une consultation en Europe et en France et je crois que les gens demandaient de garder l'heure d'été, mais
tout
je
à
suis
fait.
Pas sûr.
Non, mais t'as raison. Le public aurait la préférence pour l'heure d'été, ce que je comprends. Moi, j'aime bien l'été, c'est cool, il fait jour tard, on peut sortir faire la fête. Mais je sais pas laquelle est l'heure naturelle. Pour moi, c'est l'heure naturelle qu'il faudrait garder. Mais je sais pas laquelle c'est. Donc,
Je sais pas, j'avoue que... ce qu'il faut en tout cas, ce serait que l'Europe... et un système commun qu'on garde l'hiver ou l'été,
oui.
Que ça soit commun, parce que si on doit, en franchissant la frontière, changer ses téléphones, tout ça,
T'as tout à fait raison. J'avais pas pensé à ça, mais espérons que tous les pays en Europe aient le même horaire. Oui, voilà, c'est obligatoire.
On avance comme ça. Bah non, il y aura forcément des décalages horaires.
Non, bien sûr, mais sur le même merde, c'est pas le même méridien, c'est le même le même fuseau, on est à la même heure.
Ouais.
On peut pas avoir la France à une heure et la Belgique à une autre.
Ça, oui, voilà, c'est ça.
Oh. Oui. Bon, j'espère que. Ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Bah, techniquement, ça, rien ne l'empêche, en fait. Mais oui, ça compliquerait les choses. Il est possible que la redevance télé soit supprimée pour tout un tas de raisons. Mais rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'il y aurait plus de financement pour la télévision publique. Le financement passerait juste par un autre biais. Le financement est sans doute la taxe elle-même. Je ne pense pas que la taxe va disparaître, mais elle serait peut-être incluse avec un autre type de taxe et élargie à l'ensemble de la population. Je crois que moi, je ne suis pas contre cette idée de l'élargir à l'ensemble de la population. Même si moi, je ne regarde pas la télé, je préfère ça à l'idée de... seuls les gens qui ont la télé la payent, et il faut savoir qui a la télé, parce qu'aujourd'hui c'est devenu tellement compliqué avec les box et les machins. De toute façon, c'était un petit peu complexe, quoi qu'il arrive. Et puis bon, moi j'habite plus en France, donc voilà.
Ah ouais, ouais, non, mais t'es bien gentil, toi. T'es là, il va où, lui?
Non, mais je suis dans les deux pays, donc oui, le truc c'est que si on supprime la redevance tout court, ça veut dire qu'il n'y a plus de télé publique. Et cette perspective ne me plaît pas non plus. Même si je ne la regarde pas, même si je trouve que ce n'est pas super, je crois que c'est bien qu'on ait l'alternative d'une télévision qui a une autre source de financement que la publicité. Donc,
Après, le fait de l'étendre à tout le monde, sachant que le taux d'équipement des foyers en termes de télé est quand même déjà très élevé, hein, on est à 95-96%, donc même si on comble le gap manquant, ça va pas sauver, à mon avis, ça va apporter au doigt mouillé de quelques dizaines de millions d'euros peut-être, mais ça va probablement pas sauver. Veut sauver la télé, mais ça,
non,
ça
non,
va
l'idée
pas
n'est pas de sauver la télé. Non, non, mais c'est juste que pour moi, c'est compliqué de toute façon. Tout le monde a la télé à peu de choses près, et gérer le système nous coûte en fait plus cher qu'autre chose. Voilà, on fait tout le monde paye.
Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas envie de payer pour un système que j'utilise pas. C'est pas juste.
Moi, je crois qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être dit la même chose, mais je crois que pour le bien de la société, il est important d'avoir des chaînes de télévision, comme je le disais tout à l'heure. On se plaint du modèle de la publicité partout, sur Internet et ailleurs. Je crois que c'est peut-être pas plus mal qu'on ait un réseau de chaînes de télé, peut-être avec ampleur réduite, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir 25 chaînes de télé et 30 stations de radio, mais qu'il y ait quelques chaînes de télé qui soient financées au moins en partie par, il y a toujours de la publicité évidemment, mais qui est un autre pied au tabouret pour se financer, et que une taxe ne me paraît pas...
Sachant qu'en plus de ça, la taxe elle finance pas que la télévision publique, elle finance aussi les archives nationales de l'audiovisuel, elle finance la radio, certaines chaînes de radio en France et à l'étranger, donc ça participe du rayonnement culturel français. Et après, pour l'argument, en fait je le comprends, mais pour l'argument de... La télé, je m'en sers pas. Alors, c'est vrai, mais on pourrait se dire l'hôpital, je m'en sers pas tout le temps. L'école,
j'ai failli le dire, mais
ouais, c'est ça. On peut prendre aussi ces exemples-là. C'est l'école publique. Je m'en suis servi quand j'étais jeune, et puis maintenant je participe. Je m'en sers plus maintenant, mais je participe au financement.
Je trouve que vous comparez quelques. Enfin, bon, ça pourrait se discuter, mais. Autant école, hôpital, pour moi, c'est des fonctionnements vitaux d'une nation, d'un pays. Une télé, je comprends, moi aussi, j'aime bien qu'il y ait France 24 et Arte, des choses qui soient financées.
Tu ne penses pas que c'est vital aujourd'hui, justement, l'information qui ne repose pas que sur la pub ?
Silence. Après, tout dépend des contenus qu'on
Non, mais attends, laissons Jérôme répondre, parce que la question je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas passé, avec toutes les préoccupations qu'on a depuis un moment...
D'abord, il y a d'autres solutions, peut-être, de financement. Là, tu es aussi en train de parler... Alors, je sais que la télé publique n'est pas une télé d'État, c'est pas l'ORTF. Enfin, c'est quand même les deniers de l'État, donc on le voit, c'est chaque année, c'est le bordel. Enfin, chaque année, à chaque changement de gouvernement, c'est le jeu des chaises musicales. Il y a beaucoup de politique là-dedans. Je suis désolé, j'ai pas l'impression que y ait une, grâce à ce financement, une télé très indépendante. Non, je. Tu me demandes un peu de tomber de Caribancy là. Je trouve pas que le système actuel soit satisfaisant. J'aime bien Arte, j'aime bien France 24. Je les regarde sur mon iPad, donc je suis prêt à payer pour. mais je trouve qu'il y a un dysfonctionnement global de la télé publique et que c'est beaucoup trop politisé ça.
Voilà. Il y a une réforme qui arrive cet été. Normalement, on verra ce qu'il y a dedans. Surprise. Espérons.
Je t'ai interrompu, Julien. Tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure?
Sur la télé publique.
Oui.
Oh là, je sais plus ce que je voulais dire exactement. D'accord. À bon, part le bon point, voilà, de on finance aussi de l'information, etc. Quoi.
Ouais. Bon, je suis sûr que chacun a son avis sur la chose. Et en dernier sujet, je voulais mentionner un article que m'a envoyé Xavier sur un artiste qui a réussi à faire quand même de l'argent sur Spotify, parce qu'on parlait de Spotify, des systèmes par abonnement la semaine dernière, et on disait oui, ça pose quand même des problèmes, est-ce que Spotify permet de gagner de l'argent, etc. Et lui dit, c'est Steve Benjamins, qui dit qu'il gagne $400 par mois sur Spotify grâce aux playlists Discover Weekly, etc. Et il dit évidemment, c'est pas un truc qui me permet de vivre, mais moi, mon but n'est pas de vivre de la musique, et c'est un truc que je fais vraiment en dilettante à côté, en plus de mon travail, et ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Bon, on ne sait pas ce qui se passerait s'il s'y mettait à fond, mais c'est un exemple intéressant justement de ces systèmes par abonnement qui financent effectivement du travail, là où on a souvent l'impression, on est en fait dans la... c'était peut-être dans le rendez-vous jeu qu'on parlait de ce sujet, mais par rapport à Apple Arcade, mais on est souvent dans cette image qui est un petit peu daté de Spotify, avec l'image de ça donne 0,00005 centimes, j'exagère, mais par chanson qui est écoutée, donc c'est rien du tout pour les artistes, et on oublie le fait qu'il y a énormément de gens qui écoutent maintenant, avec l'ampleur que ça a pris, et ça finit par faire un peu d'argent, et ça permet à des gens comme Steve Benjamins, qui n'auraient jamais pu faire de l'argent par les systèmes traditionnels, de faire de l'argent de cette manière, et peut-être même qu'il dira, je veux me lancer à terme, où il y en a d'autres qui, comme lui, gagnent de l'argent. Et il y en a qui gagnent beaucoup d'argent aussi. Donc, cet élément est important à rappeler également. Et je crois que ça va être tout pour notre épisode, qui a été très long, évidemment, avec une grosse partie sur la directive du droit d'auteur, qu'il était important de couvrir, je crois. Merci à tous les deux d'avoir été patients et d'avoir participé sur la longueur. On va se quitter, mais avant ça, évidemment, je voudrais donner à tous les deux l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver, à commencer par Jérôme, qui ne vole aucun contenu sur YouTube. Où peut-on te retrouver, Jérôme ?
Presque. On peut me retrouver sur Nowtech, donc sur YouTube. Vous tapez Nowtech, Nowtech. Et comme j'ai parlé de mon Instagram au tout début, vous pouvez me retrouver, c'est Jérôme_Nowtech sur Instagram.
Merci beaucoup, Jérôme. Et merci, comme toujours, de ta présence, de ta bonne humeur, de tes calembours et de tes photos.
J'ai été le ronchon, un peu de l'émission. J'étais un peu le... Mais bon, c'était un rôle.
Écoute, moi, je me suis trouvé un petit peu trop positif sur tous ces
histoires. Oui, un peu naïf. Tu faisais un peu, oh là là, mais tout va bien se passer.
Donc, merci d'avoir été là. Et notre justice aveugle au penchant de chacun, Julien, qui nous a aidé à voir plus clair dans tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et toi, Julien?
Alors, vous pouvez me retrouver sur le site Numérama, donc numérama.com, et également sur Twitter avec le pseudonyme FoxTeh, FoxTeh.
Le lien sera dans les notes de l'émission. Merci à vous tous. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. C'est très facile, c'est Note avec Patrick derrière. Et vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Frenchspin.com, c'est sur les, pour les émissions anglophones. Venir commenter sur tout ce qu'on a dit, les choses qu'on, avec lesquelles vous êtes d'accord et les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et vous pouvez également, bien sûr, soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Ça prend 2 minutes. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et pour un petit dollar par épisode, eh ben vous pouvez soutenir l'émission, un petit dollar ou un peu plus. C'est vous qui choisissez. Merci à tous ceux, comme toujours, qui choisissent de le faire. C'est grâce à vous que l'émission existe. On vous fait des bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde. Ciao.